La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Avec la participation d'Ida Chaffaille et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
Les violences prennent, hélas, des formes variées. Le harcèlement moral est l'une d'entre elles. Et tout récemment, le 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision dans laquelle elle a reconnu l'existence d'un harcèlement moral de nature institutionnelle. Cette décision de la chambre criminelle a beaucoup fait parler puisqu'elle a approuvé la condamnation de dirigeants d'une très grande société dans une affaire où le harcèlement a eu des conséquences humaines extrêmement lourdes. Ida, Olivier, de quoi parle-t-on lorsque l'on dit qu'une société est condamnée pour harcèlement moral institutionnel ?
Pour pouvoir répondre à votre question, il faut d'abord préciser que le harcèlement moral est une infraction définie par plusieurs articles du Code pénal, qui peut se rencontrer dans des situations différentes. Une personne peut être en effet harcelée par son conjoint. Elle peut également l'être dans le milieu scolaire, sur les réseaux sociaux, et bien sûr, dans le monde du travail. C'est dans cette hypothèse que l'arrêt dont nous parlons aujourd'hui a été rendu. Dans cette affaire, il a été reproché au président-directeur général d'une grande société et à plusieurs autres dirigeants d'avoir mis en place une politique d'entreprise dont l'objet était une réduction massive et rapide des effectifs par des incitations répétées au départ, des mutations forcées, une pression sur les résultats. L'objectif étant de provoquer le départ de 20 000 agents et la mobilité interne de 10 000 autres, représentant au total un quart des effectifs. Cette politique d'entreprise a eu de lourdes conséquences sur la santé des salariés, dont certains se sont suicidés. C'est dans ce contexte qu'un syndicat a déposé plainte et que des poursuites ont été initiées pour harcèlement moral au travail. Pour condamner les cadres dirigeants poursuivis, tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel ont qualifié ce harcèlement moral d'institutionnel, en reprochant aux prévenus d'avoir, je cite, « défini et mis en œuvre une politique d'entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d'une collectivité d'agents par des agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d'une dégradation potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepasse les limites du pouvoir de direction. »
Le harcèlement moral institutionnel est connu en sociologie du travail, mais n'avait jusqu'à présent reçu aucune consécration juridique. Le Code pénal incrimine en effet, à l'article 222-33-2, le harcèlement moral au travail, sans faire de mention spécifique à sa possible dimension institutionnelle. Les dirigeants de la société ont alors contesté devant la chambre criminelle l'analyse faite par les premiers juges qui les avaient condamnés pour ce harcèlement moral institutionnel. Selon eux, il ne pouvait leur être reproché d'avoir harcelé des salariés par la politique d'entreprise qu'ils avaient décidée et ou mise en œuvre, car, d'une part, ils n'avaient jamais été en relation directe avec les salariés victimes, d'autre part, cette politique était générale et non tournée vers des salariés précisément identifiés. Ils considéraient ainsi que le harcèlement moral ne pouvait être caractérisé que dans une relation interpersonnelle et à l'encontre de personnes ciblées. Ce raisonnement n'a pas été suivi par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a, au contraire, admis la possibilité de condamner des dirigeants pour harcèlement moral qualifié d'institutionnel.
La Cour de cassation a donc consacré une nouvelle infraction ?
Non. La Cour de cassation n'est bien sûr pas le législateur et ne peut donc consacrer une nouvelle infraction. Son rôle est de veiller à une application uniforme de la loi sur le territoire national et de s'assurer de sa bonne interprétation par les juges. C'est une lecture fine du texte d'incrimination, appuyée sur l'intention du législateur, telle qu'elle ressort des travaux parlementaires, qui a conduit la Chambre criminelle à cette analyse. En effet, et j'attire votre attention sur ce point, car c'est important, l'article 222.33.2 du Code pénal distingue deux types d'agissements. Ceux qui ont pour objet une dégradation des conditions de travail et ceux qui ont un tel effet. La Chambre criminelle a déduit de cette distinction faite par le législateur une conséquence en termes d'identification des victimes. Elle considère que les agissements harcelants qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail supposent que les victimes de tels agissements soient précisément identifiées. En effet, cette formule implique que les agissements harcelants aient dégradé les conditions de travail, c'est-à-dire qu'ils aient produit un résultat pour au moins un salarié identifié. En revanche, lorsque les agissements harcelants ont pour objet cette dégradation des conditions de travail, ce qui est le cas de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, l'infraction appartient alors à la catégorie des infractions à caractère formel. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire que le résultat recherché se soit produit pour que l'infraction soit caractérisée. Ainsi, dans notre espèce, le délit de harcèlement moral au travail, lorsqu'il a pour objet une dégradation des conditions de travail, n'impliquera pas, pour être constitué, la constatation d'une dégradation effective de ces conditions. Il n'est alors pas non plus nécessaire que les agissements harcelants concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec l'auteur, ni que les salariés victimes soient précisément identifiés.
Il suffit donc que l'auteur ait l'intention de commettre en toute connaissance de cause ces agissements harcelants dont l'objet est de dégrader les conditions de travail des personnes concernées. Celles-ci doivent toutefois faire partie de la même communauté de travail et être, à tout le moins, susceptibles de subir les conséquences visées à l'article 222.33.2 du Code pénal, à savoir une dégradation des conditions de travail qui présente un certain degré de gravité, puisque cette dégradation doit être, je cite, « susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ». La Chambre criminelle aboutit ainsi, au terme de son raisonnement, à la conclusion qu'indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, entre dans le champ d'application de l'article 222.33.2 du Code pénal les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ses salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale, ou de compromettre leur avenir professionnel.
Alors, vous venez de nous expliquer que la Chambre criminelle a confirmé l'interprétation que faisaient les juges du Code pénal en admettant la possibilité de poursuivre ce qu'on appelle donc le harcèlement moral institutionnel. Mais vous nous avez dit aussi que c'était la première fois que cette forme de délinquance était reconnue. Dans ce cas, les dirigeants de la société pouvaient-ils s'attendre à être condamnés ?
La Chambre criminelle a eu à s'interroger sur cette question de la prévisibilité de la loi pénale. Il s'agit d'un principe fondamental du droit pénal. Pour le Conseil constitutionnel, comme pour les juridictions européennes, la loi pénale doit clairement définir les infractions qu'elle énonce pour permettre à tout citoyen de connaître les actions et omissions qui peuvent engager sa responsabilité pénale. Mais la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que ce principe ne peut être interprété comme interdisant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre.
Pour le dire autrement, si la loi doit être précise, il n'en demeure pas moins qu'elle a une portée générale. Il revient donc au juge d'en faire application dans les cas particuliers qui lui sont soumis. Et à cette occasion, le juge peut préciser la portée de la loi. Mais attention, pour que le juge puisse appliquer la loi pénale à une situation nouvelle, encore faut-il que son interprétation soit cohérente avec les applications précédentes de cette loi et qu'elle soit raisonnablement prévisible pour les personnes concernées. Et c'est précisément le raisonnement qu'a suivi la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 janvier dernier. En premier lieu, elle a relevé que la répression du harcèlement moral institutionnel ne constitue pas un revirement de jurisprudence puisque elle n'avait jamais jugé du contraire et qu'elle n'avait notamment pas exclu que le harcèlement moral puisse revêtir une dimension collective. La Chambre criminelle a ensuite observé que la notion de harcèlement moral institutionnel n'était qu'une déclinaison à une situation nouvelle de l'infraction de harcèlement moral au travail. Cette incrimination protégeant les membres de la communauté de travail de toutes les formes de harcèlement, quel qu'en soit le mode opératoire. Enfin, elle a constaté que les travaux préparatoires au vote de la loi qui a consacré le harcèlement moral au travail évoquaient déjà la notion de harcèlement moral institutionnel et qu'il était donc possible pour les dirigeants de la société concernée de s'entourer de conseils avisés pour éviter de commettre une telle infraction. La Chambre criminelle a donc rejeté les pourvois des dirigeants.
Il faut donc retenir de cet arrêt que, lorsqu'ils ont pour effet une dégradation des conditions de travail, les agissements harcelants prévus à l'article 222.33.2 du Code pénal nécessitent que leurs victimes soient précisément identifiées. En revanche, lorsqu'ils ont pour objet une telle dégradation, il n'est pas exigé des relations interpersonnelles entre l'auteur et les victimes, ni l'identification de celles-ci.
C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver les références de la décision commentée sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire part de vos demandes d'explication de jurisprudence en nous adressant un courriel à lavoixdelacrime.courdecassation@justice.fr. À bientôt.